19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et oui, toujours en live sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi 5 novembre, toujours pour vous accompagner tout au long de la soirée sur l'antenne de Beurre. Et du lundi au vendredi, c'est Time Sport. Sur la Twittosphère aussi, vous pourrez nous suivre et même sur le site internet de beurrefm.net, sans oublier le standard où le réalisateur Yanis se fera un plaisir de vous décrocher au 01 53 48 3000. Au menu de cette émission aujourd'hui, Platini en attendant FIFA 2023, mais aussi Cheeseboxing en la personne avec aujourd'hui ce soir Guillaume Salançon, président de la Fédération de Cheeseboxing France, et Alexandre Bourreil. Allez, on aura un mot à dire avec lui, cofondateur de l'agence Aya Communication. Mais aussi, dans cette émission, on parlera de Ligue des Champions. Et oui, oblige, mardi soir et mercredi soir, c'est la Ligue des Champions. Le jeudi soir, c'est la Ligue Europa, soir d'Europe, bien sûr, sur l'antenne de Beurre FM. Et sans oublier, le PSG avec encore Icardi et Cavani. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Hervé Dibi, sans oublier l'arrêt ravissante Myriam Bensala et aussi Alison Nkunku. Comment ça va Myriam ?
Très bien, c'est un plaisir de revenir et de parler de football et de plein d'autres disciplines sportives.
Et nous aussi Myriam, Alison, ça va toi ?
Ça va et toi Bilal ?
Oui, tranquillement, quand je vois le coach Tollet pour m'accompagner.
Oui, ça va impeccable Bilal.
Super sympa en tout cas. Ouais, on est toujours bien sur l'antenne de Beurre FM. Et pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM, voilà, comme je l'ai dit, c'est nos invités. Et c'est Guillaume Salançon, président de la Fédération de Cheeseboxing France, c'est bien ça ?
Bonsoir, ouais, c'est ça, le cheeseboxing.
Cheeseboxing. Allez, on va le prononcer, ouais, c'est vrai, moi et l'anglais, c'est deux, hein.
Cheeseboxing.
Ouais, cheese. Non, c'est le cheese, c'est pas bon, et il faut pas le dire comme ça. Et aussi, on aura Alexandre Bourreil, qui nous donnera aussi quelques aperçus de cette discipline. Comment ça va?
Bien.
Ouais, très très bien. Ouais. Toujours le sourire.
Extrêmement
à. Allez, vous restez bien connectés et on commence avec Michel Platini.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, Michel Platini, justement, il est au menu de cette émission qui est Time Sport, qui n'a finalement pas pris sa retraite et de retour sur les terrains judiciaires, malheureusement, aussi bien que politique, avec peut-être le rêve secret de devenir enfin, et malgré tout, le président de la FIFA. Un poste, lui, ayant échappé par le passé pour les raisons qu'il considère uniques comme un règlement de compte personnel. Cependant, est-il l'homme de la situation qu'il s'imagine incarner pour sauver le football? Alison, on t'écoute.
L'homme de la situation,
ouais, pour Michel Platini.
Pour sauver le football, je ne sais
pas. Pourquoi pas un Français?
Est-ce qu'il a été l'homme de la situation
avec une équipe champion du monde?
Est-ce qu'il a été l'homme de la situation auparavant? Je ne sais pas, mais après.
Il était bon.
Il est à l'UEFA. Qu'il n'était pas mauvais à l'UEFA. Maintenant, Michel Platini, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est soutenu par les anciens bleus et qu'il est soutenu par bon nombre de personnes au sein des fédérations. Hein. Il a été écarté en 2015, si je ne m'abuse, de son instance, mais il a toujours été là quelque part. Hein. Il a été écarté officiellement, mais officieusement, Michel Platini n'a jamais quitté les bancs de l'UEFA, de la FIFA et du football en général. Donc, il a toujours son mot à dire. Et pourquoi pas, hein, son retour peut-être salvateur, je n'irai pas jusque-là, mais ça serait peut-être bénéfique, un retour de Michel Platini.
Myriam, on l'écoute. Bah, on aura aussi Guillaume.
Bah, déjà, sa sanction, elle a pris fin en octobre dernier, donc c'est maintenant il a la possibilité d'en venir dans le football. Et je pense que ça peut être une bonne chose, hein, pour l'avenir du football, parce que c'est quand même quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est un grand connaisseur du football, c'est un grand joueur. Pour avoir validé le fair play financier, c'est que quand même, quelque part, il y a une dose d'humanité chez lui. Et puis, être contre la VAR, c'est aussi valoriser le jeu, parce qu'on voit tous les dégâts que la VAR peut engendrer dans une partie où ça hache un match. Lui, qui est contre, il est pour le jeu, pour un jeu plus direct. Et puis, sans oublier qu'il a voulu la Coupe du Monde au Qatar. Et ça, je trouve que c'est une
fabuleuse.
Oui, mais c'est une très bonne nouvelle.
C'est décrié quand même.
C'est judicieux. Jusqu'à présent, il a des casquettes.
C'est pour moi, c'est une très bonne chose d'ouvrir à des pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, hormis l'Afrique du Sud, parce que c'est la Coupe du Monde. Tous les pays rêvent de l'accueillir un jour, et c'est pas seulement l'Europe ou l'Amérique qui doivent l'avoir. Il faut aussi ouvrir, et pour ouvrir, et je pense que cet homme, c'est un homme qui a du cœur, qui est tolérant, qui a une grande ouverture d'esprit, parce que pour avoir ces idées là. c'est d'être quelque part, être assez humaniste.
Guillaume Salençon avec nous, peut-être un mot, une réaction avec Alexandre concernant Michel Platini.
Moi je suis beaucoup moins expert que vous sur le sujet, mais après juste en tant qu'amateur de foot, c'est clair que Platini, moi, il a bercé mon enfance en tant que joueur, et après ce qu'il a fait, je suis pas tellement trop au jus des magouilles ou pas, ce qui est, voilà, non mais ce qu'il a pu...
Mais même nous, hein.
Non mais voilà, ce qu'il a pu être, mais c'est ça le problème, c'est que si on savait ce qu'on lui reproche, est-ce qu'il a pas été victime d'un piège de... Enfin voilà,
c'est ce qu'on disait.
Donc moi, personnellement, après, juste par rapport à ce qu'il peut faire pour le foot, et ce que tu disais sur, par exemple, l'Avar, ou ce... Voilà, après, je suis moins d'accord sur la Coupe du Monde du Qatar, mais pour ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'il a sa place, et il faut qu'il revienne dans le foot, c'est clair. Enfin, il manque, quoi, je pense.
Ouais, c'est vrai. On lui a interdit, on dirait, d'aller plus loin, Michel Platini. Pourtant, il a été assez respecté par nombre de joueurs, par la planète football, quoi.
Je pense qu'il a pris un stop par Blatter, quoi.
Enfin, c'est Blatter, l'Helvète. Enfin, alors,
la politique est rentrée en jeu. Bien sûr que la politique est rentrée. Après, il faut oublier que lorsqu'il était à l'UEFA, il a fait du bien. Il avait permis notamment aux nations moyennes ou petites nations de se relancer de par les nouvelles réformes de Ligue des Champions, je crois, ou même au niveau des qualificatifs et tout, ça a permis aux petites nations d'émerger de nouveau, entre guillemets, dans un second souffle
dans
le monde du football. Maintenant, ça fait toujours du bien d'avoir une personne... je suis en direct, toi t'es en train de...
Ouais, mais on le laisse, parce que lui...
Il me gratte le dos.
Arrête, parce que lui, ne t'inquiète pas, il va le saigner, je crois, lui.
Mais après, faut voir les idées, faut voir dans quelles conditions il va arriver, s'il a envie de revenir...
Et juste, c'est quel poste qui brigue?
Bah lui, c'est la FIFA qui arrive. C'est la FIFA.
Infantino, peut-être, tu vas préparer. Infantino a préparé le fauteuil, quoi.
Oui, peut-être. Il y a certains qui disent. Lui, il arrivait tranquillement aussi. Il était bien. C'était un peu le bordel. Lui, il arrive.
Il a plutôt repris le fauteuil qui était destiné.
Oui, il a repris.
Il sait bien que Platini ait voulu.
C'est très, très proche, quoi.
Au Qatar, Infantino, il arrive. Il dit aussi que l'Afrique. Après, tout ça, c'est de la communication. On rentrera pas dans le détail de la manière dont le Qatar a obtenu la Coupe du Monde. Maintenant, oui, nous, en tant que Français, ça nous ferait... Ouais, on aimerait le voir.
C'est toujours un peu bizarre quand les pays obtiennent la Coupe du Monde, voire les Jeux Olympiques aussi.
Ouais, là, c'est devenu... C'est quand même très bizarre.
On n'a
pas tous les éléments, mais c'est quand même très bizarre.
C'est ça. Après, ce qui peut lui porter préjudice à Michel Platini, à l'heure actuelle, c'est les casseroles qui traînent encore. Son image n'est pas tout à fait...
Mais il n'y a pas que lui.
Mais c'est ce qu'il cherche à régler dans un premier temps.
Exactement. Il a porté plainte en France, justement, pour qu'il soit lavé de toutes les accusations. D'un point de vue judiciaire dans un premier temps, mais peu importe, de toute façon, à partir du moment, et ça on le sait tous, où quelqu'un a été accusé, qu'il soit finalement blanchi de ses accusations ou pas, l'accusation lui colle à la peau. Donc de toute façon, Michel Platini sera toujours assimilé à ses affaires, la Coupe du Monde un peu floue, ce qui s'est passé, les 1,8 million d'euros qu'il aurait soi-disant touché ou pas, ce qui s'est passé avec Josep Blatter, enfin ça reste un peu flou tout ce qui s'est passé.
Il y a forcément eu quelque chose
et on ne sait pas quoi. Donc un nuage noir de toute façon qui plane autour de Michel Platini.
Est-ce que c'est pas un faux procès qu'on lui fait, parce que
on sait pas,
c'est pas le seul à avoir les mains sales, tu vois.
Voilà, c'est pas le seul, mais quand même.
Son nom revient à plusieurs reprises.
C'est pas
lui qui s'est fait griller, mais cependant, son nom revient quand même assez fréquemment.
Il s'est fait griller, je suis pas d'accord avec toi, Hervé. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi ?
Ça reste assez fou.
Parce que depuis Avalanche, tu crois qu'il y en a qui n'auraient pas pu se faire griller ?
Bien sûr.
Et qu'on sort maintenant que Michel Platini. En tant que bon citoyen français, je défends Michel Platini. J'aimerais, pourquoi pas, que Michel Platini brigue la Fédération Internationale de Football. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand même, parce que le Brésil en 94, on en parle aussi, du Mondial. Peut-être on était trop jeunes.
Qui est tout blanc.
Mais elle a raison.
Est-ce qu'il y en a qui se gagne ?
Et puis là, ce qu'il fait lors de sa tournée, excuse-moi de couper, c'est un peu le pompier pyromane, hein. c'est un peu le justicier. Non, il faut pas que ça se passe comme ça, il faut plutôt qu'on revoie les choses comme ça. Il va à contre-courant d'une instance que lui-même finalement a mis en place, un peu toutes ses magouilles, etc. Donc là, ce qu'il est en train de faire, un peu sa campagne autour de la promotion de son livre, je sais pas si ça va dans son sens.
On verra
rubriquer
bien.
On regardera ça de près.
Hervé et Myriam.
Moi, je lisais une interview de Michel Platini sur nos confrères de la RTS. Où il disait clairement que pour lui, il avait été victime d'un complot. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas forcément le voir.
Certains le pensent,
Voilà, et Ouais. C'est ça, on a des raisons de penser.
Mais
on a des raisons de le penser, mais honnêtement, ouais, il y a rien de surprenant dans ce discours-là. Bah, il n'allait pas dire le contraire.
Bah, même
dans ce milieu-là. Hein.
Alors, Myriam,
il a le droit de le dire parce que c'était lui qui devait reprendre la FIFA. C'était lui.
Oui, mais pourquoi il n'a pas repris?
Bah, il a été évincé. Il gênait des gens.
Et pourquoi?
Clairement.
Il gênait des gens.
Mais pourquoi?
Bah, faut lui demander.
Alors, voilà. Lui nous dire, justement,
notre invité Guillaume Salançon, le président de la fédération de chess boxing.
D'un regard extérieur, comme ça, entre Blatter et Platini, bizarrement, j'ai plus tendance à croire Platini. Et c'est pas, voilà, parce que c'est Platini. C'est juste que Blatter, je le sens un peu plus, peut-être comme ça. Et ce complot-là, ça m'étonnerait pas qu'avec la puissance que Blatter avait, qu'il ait pu mettre en place ce genre de choses. Enfin, après, voilà. Mais bon.
Ça va très très vite. Il a pas tort, Guillaume.
Oui,
il a très vite.
Mais
il pourra revenir.
Honnêtement, moi, je pense pas. Je pense que son image, elle a été ternie. Par ce scandale.
Il est très respecté, quand même, encore une fois. Michel Platini.
Il y a des, il y a certains de ses proches. Ouais.
Monsieur Platini pour Myriam, bien sûr. Moi, Michel, c'est intime. Le football, c'est intime, Myriam. C'est comme ça. C'est Yoga Bonito. Et Michel comprendra.
Michel Platini, hein, c'est l'histoire du football français.
Bah, bien sûr. C'est comme Hidalgo. Monsieur Zinedine Zidane. Voilà, encore. Ouais, mais je ne me verrais pas appeler Monsieur Zinedine Zidane. Lors d'une conférence, peut-être une remise d'un ballon d'or ou quoi. Mais pourtant, j'aime bien Platoche ou Michel, Michou. Hein. Allez, on reste cool.
J'aimerais juste poser une question. Est-ce que Michel Platini pourrait pas briguer un autre poste autre que celui de la FIFA?
La FFF pour
moi. J'avais entendu l'info. Pourquoi il voulait briguer la fédération? C'est pour ça que je demandais qu'est-ce qu'il brigue. Alors, j'avais entendu ça, que c'était la fédération française.
Ouais, moi j'entends aussi que Didier Deschamps briguera la fédération française de football aussi.
Non.
Ouais. C'est pas moi qui dis.
Non.
C'est pas moi qui dis, mais je suis sérieux.
Je pense pas. Il a trop envie encore de.
Mais Guillaume, j'envoie des.
Non, mais j'envoie. L'Euro
2020. Ouais,
tes sources.
Mais Platini à la FFF,
pourquoi pas mal.
Je regrette,
ça serait pas mal.
Plus que la FIFA, même, pourquoi pas la FIFA.
Dans un premier temps.
Ouais.
Je pense aussi.
Ah, mais la FIFA serait tellement plus beau.
Oui, mais ça revient d'un peu de loin.
Je suis pas justement de Platini, Hidalgo. T'imagines le symbole d'avoir Michel Platini à la tête de la FFF? Le Gret, il t'a fait rêver quand t'étais joueur? Non, je pense pas.
Ouais.
Platini, un joueur de cette envergure, il faut le mettre dans les plus grandes instances.
Mais je suis d'accord avec toi, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que nous, on est l'une des seules fédérations à avoir, je suis désolé, des personnes qui n'ont pas trop pratiqué, tu sais, le ballon.
Totalement.
Ce serait bien d'avoir un gars comme Michel Platini, par exemple. Ce serait pas mal.
Totalement. Ce serait pas mal. Pourquoi pas?
Le coach,
il a
encore,
il a
pas
de
encore,
terrain,
pas encore, ouais.
Ouais. Non. Ouais, après 2020 peut-être, après le.
Ah, ça serait sympa, Didier. Où il va, tout gagne. Après, et tout lui réussit.
On parle d'un Alsacien aussi.
Ah oui. Tu t'imagines? Il y aura des Ligues des Champions à gogo, à mon avis. S'il brigue. Non, mais je rigole pas.
Pour l'Alsacien, il y a aussi le Bayern qui le
fait. Ça serait pas mal. J'aime bien des Champions.
Tu parles de Wenger?
Ouais.
Je te parle d'Arsène
Wenger,
ouais.
C'est vrai, un plus jeune.
Ouais. Oh. Mais encore. Allez, ce soir, nous accueillons, je le rappelle, Guillaume Salançon et aussi Alexandre Bourail dans cette émission qui est Time Sport, 19h-20h.
Time Sport.
Eh oui, bonsoir messieurs, rebonsoir tout de même. Le président de la Fédération de Chess Boxing France nous fait l'honneur d'être avec nous en la personne de Monsieur Salançon et aussi d'Alexandre Bourail, je le rappelle, cofondateur de l'agence AIA Communication. Justement, est-ce que vous pouvez rappeler à toutes les auditrices et les auditeurs ce qu'est le Chess Boxing? Le chess,
c'est normal, c'est un nouveau sport. Alors c'est le chess boxing. Donc le chess en anglais veut dire échec,
c'est ça?
Non, échec.
Échec, non?
Non, échec, ce sont des échecs.
C'est ça, le jeu d'échecs.
Non, chess, c'est chess.
OK, d'accord.
Boxing plus loin, boxe évidemment. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est un sport à part entière qui a été inventé par un dessinateur de BD, Enki Bilal.
Donc, Bilal.
Voilà, vous voyez qui c'est. Et il a inventé ça dans une BD dans les années 90, dans un froid équateur d'une trilogie qui s'appelle Nicopol, que j'invite tous les auditeurs à lire parce que c'est passionnant. Et donc là, déjà, il voulait justement créer une société où on pouvait noter les gens. Déjà à l'époque, il anticipe beaucoup de choses. Et donc, du coup, il s'était dit dit que la meilleure façon, les deux sports qui pouvaient réunir l'athlète parfait étaient la boxe, le côté sportif, physique, force, et les échecs, qui est quand même un sport. Donc, voilà, pour certains, ça ne s'en est pas, mais c'est quand même un sport où, justement, c'était la réflexion et l'intelligence qui prenait le pas. Donc, pour lui, le meilleur athlète et le combattant le plus fort était celui qui gagnait soit à la boxe, soit aux échecs. Et donc, en fait, comment se matérialise ce sport? C'est, on est sur un ring.
Ouais.
Donc c'est la soirée que nous faisons le 9 novembre.
C'est ça.
Samedi au Cabaret Sauvage.
Ouais.
Il y a un ring qui sera au milieu de la scène. Et donc, il y a un échiquier. Donc, les combattants arrivent. Ils commencent par un round d'échecs. Donc, ils jouent 3 minutes d'échecs en partie rapide. Donc, avec une pendule. Je sais pas, vous avez déjà dû voir ça. Et la partie ne se termine pas parce qu'on peut pas gagner en 3 minutes. Donc, on enlève l'échiquier. Là, ils mettent les gants et on part sur 3 minutes de boxe. 3 minutes d'échecs, 3 minutes de boxe, et le gagnant est celui qui fait KO, qui met un KO, ou soit qui fait échec et mat. Donc c'est de la boxe totale, parce qu'on n'est pas à la touche, on n'est pas au point, on est au KO, et le jeu d'échecs aussi, pareil, voilà, c'est le même principe. Donc c'est un sport qui est tout nouveau, et qui est en train de prendre son essor en France. Mais il n'est pas tout nouveau dans le monde. Il y a quand même 15 fédérations mondiales. Et on part faire les championnats du monde en décembre à Antalya. Ah
ouais. En Turquie, oui.
En Turquie, en décembre avec toute l'équipe de France. Donc voilà, on a un calendrier assez chargé. Mais bon, on est surexcité parce que c'est vraiment une aventure incroyable.
Oui, justement. C'est sport incroyable. Avec Hervé, réaction. Moi, j'en ai un aussi. Allez, je t'en prie.
Allez, vas-y.
Alors.
En fait, les victoires, elles se décident plus grâce aux parties d'échecs, ou est-ce qu'elles se décident plus par rapport au, je sais pas si on m'entend, si elles se décident plus par rapport au round de boxe.
Alors,
en fait,
qu'est-ce qui c'est 60-40, 60% sur l'échiquier, 40% au KO.
D'accord.
Mais après, bon, c'est des statistiques qui valent ce qu'elles valent, parce qu'il y a eu bon des combats, mais on n'a pas tenu, on va dire, des statistiques voilà très précises, mais c'est à peu près ça, oui.
D'accord.
Mariam, peut-être une réaction avec nos invités ce soir.
Une question, alors ce sport fut imaginé et développé par deux artistes, Enki Bilal, l'auteur, et l'Hollandais,
c'est vrai, j'ai oublié
Jeppe Rubbing, qu'il a développé en 2003.
Voilà.
Et vous êtes aussi vous travaillez aussi dans le milieu artistique,
c'est
ça. Producteur de spectacle, donc finalement, n'est-il pas. Enfin, ce sport
je vois ta question.
Oui. C'est bien si vous pensez avant. Ce sport n'est-il pas finalement la meilleure promotion de la créativité artistique?
Alors c'est ça, c'est un peu ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Enki Bilal a quand même inventé un sport comme on a inventé le foot ou le rugby. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Yeppe a créé les règles. Et Yeppe est aussi un artiste d'art contemporain assez fou. Et moi, je travaille dans le milieu culturel, de la musique. Enfin, j'organise des événements. Voilà. Et donc, c'est vrai que on est tous sportifs. Tous les trois sportifs, mais on œuvre pour développer ce sport et sans être des vrais sportifs. Et c'est vrai que c'est ce qui fait sa spécificité, c'est ce qui fait son originalité, et c'est ce qu'on veut faire justement sur les événements qu'on va faire là au Cabaret Sauvage. C'est qu'on veut vraiment sortir des clichés, soit de la boxe, soit des échecs, et aller dans un lieu un peu sympa comme le Cabaret Sauvage.
Il est très sympa.
Il va y avoir de la musique, où il va y avoir un show à la mi-temps, un peu comme au Super Bowl.
Ouais.
Enfin, on va essayer d'en mettre un peu plein la vue, de faire un truc un peu sympa pour justement sortir ces deux sports qui auraient jamais dû se rencontrer en fait et qui se rencontrent là et de le montrer au grand public, quoi.
Et là, c'est assez incroyable quand même, Enki Bilal, parce que dans ses BD, c'est vrai que lui, il voyait tout, c'était comme un Jedi, quoi. Il voyait tout à l'avance. Non, mais honnêtement, dans ses bandes dessinées telles que Tron, on lui disait que, vous voyez, ça a été peut-être imaginé déjà le film Tron Legacy qui est sorti en 82 et après qu'il y a eu une suite dans les années 2010, je crois, où on disait que c'était vraiment sa vision futuriste et peut-être d'assembler un sport tel que les échecs et aussi avec le noblard qui est la boxe. Ça reste assez incroyable. On va revenir avec le cheeseboxing et nos invités de ce soir, c'est promis. Vous restez bien à l'écoute et même on vous balancera toutes les infos concernant ce fameux événement au Cabaret Sauvage samedi. A de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, c'est l'heure de Tam Sport, toujours en compagnie d'Alison Nkunku, de Myriam Bensala, Hervé Dibi, sans oublier le coach Tollé. Un petit clin d'œil à toutes les auditrices et les auditeurs qui réagissent sur la fanpage Facebook, mais aussi sur le site internet de beurrefm.net. D'ailleurs, on nous écoute du côté, allez, ben pourquoi pas, à Nîmes aussi, et ben Nîmes, on nous, Nîmes et Alès, c'est le 104.6. Voilà, sans oublier aussi Valenciennes, le 97.6. Point 4. Tous les podcasts de vos émissions sur vos applications de téléphone portable Beurre FM, mais sinon sur le site beurrefm.net. On était en compagnie des messieurs, et oui, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle, Alexandre Boreille, le cofondateur de l'agence de communication AIA, et aussi Guillaume Salançon, président de la Fédération Shitboxing France. On s'attarde avec nos consultantes et nos consultants avec l'interview de ce soir. Et toi, Claude Tollé,
ouais,
justement.
J'avais une question. Quel profil de joueurs vous avez, sachant que ça regroupe quand même au départ ouais, deux disciplines? Est-ce que vous avez
Que des boxeurs, quoi.
Ouais, que des boxeurs. Est-ce que vous avez des...
Non, alors,
comment ça se passe, justement?
On a les deux profils. On a des bons boxeurs qui sont un peu moins bons aux échecs, on va dire, et des très bons joueurs d'échecs qui sont un peu moins bons à la boxe.
D'accord.
Et tout le travail de la fédération et des clubs et tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement de leur donner les outils pour réduire ces différences entre leurs niveaux et de faire que un bon boxeur qui a un niveau, on va dire, pas très bon d'échecs, progresse très rapidement. D'accord. Donc on va lui donner toutes les astuces, tous les outils, et l'inverse, et pour qu'on ait, en fait, pour arriver à avoir le chess boxeur le plus complet, le plus global, parce qu'en fait au final on se rend compte que c'est uniquement comme ça qu'on peut gagner et aller loin, par exemple au championnat du monde.
Oui, Hervé.
Moi j'avais une question, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, enfin, cette discipline, elle pourra être médiatisée sur les chaînes de sport ou pas?
Alors oui, mais carrément, parce que non mais c'est même en projet.
Non, parce que quand tu lis entre guillemets le concept, ça peut ne pas paraître aussi attractif que certaines disciplines.
Bien sûr.
Alors, je pense qu'il faut le voir pour le comprendre.
Exactement. Ouais. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que si on a voulu nous faire cette soirée du 9 novembre, c'était vraiment pour montrer aux Français, pour montrer à tous les gens, enfin en tout cas qui sont intéressés par cette discipline, ce que ça donne en live. Mm-hmm. Et donc, on va justement, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'on va filmer nous tout le combat, on va le diffuser sur le net, évidemment, et on va le filmer de manière, on va dire, assez professionnelle, un peu de façon télé, il va y avoir des ralentis, ce genre de choses. Et notre objectif, bien sûr, c'est de trouver un diffuseur assez rapidement pour pouvoir le diffuser sur certaines chaînes. Alors, par exemple, il y a l'équipe, ouais, RMC. Donc, RMC est venu faire un reportage à RMC, ouais, 4. L'équipe, alors qu'ils sont des chaînes plus petites, mais qui peuvent. Moi, je regarde l'équipe très souvent, et ouais, le samedi, le vendredi soir, ils mettent des combats de kickboxing, de boxe. Alors,
il faut les diversifier, là. Voilà, c'est vrai, dans l'antenne.
Même RMC aussi, depuis quelques mois.
Même le confrère d'RMC,
oui. Investit beaucoup sur les sports de combat.
Ouais, voilà.
Et pourquoi, donc, pourquoi pas? Ah, si après ça intéresse les diffuseurs, si les diffuseurs disent effectivement non, ça nous va pas, mais nous on pense qu'on a vraiment une carte à jouer.
Alors Myriam, on écoute. Alors,
pouvons-nous définir le chess boxing comme un sport de tête, puisqu'il faut se servir de ses neurones et en même temps il faut donner des points et viser la tête?
C'est ça, oui, et bien sûr, et c'est un sport, en fait, c'est un sport qui mêle, la réflexion, la force, c'est le calme, le chaos, c'est l'école de la vie, moi, pour moi. Donc, il faut réfléchir, il faut frapper par moment, mais il faut éviter. La boxe aussi, on pense que la boxe, c'est un sport violent, où il faut taper, mais non. La boxe aussi, ça fait partie de contrôler son corps, anticiper. Les échecs sont très violents. Ça, les gens pensent que les échecs, c'est un sport d'enfants, ou, non, quand on fait une vraie partie, il y a une question de domination, qui est très importante, et ça, voilà. Donc pour moi, c'est un sport qui résume vraiment ce qu'est la vie, surtout cette société contemporaine qui est assez violente ou assez complexe. Le chess boxing, je trouve, fonctionne bien avec ça et nous permet d'être parés à tout ça, je pense.
On continue avant de terminer avec toi, Alison, cette interview.
Je voulais savoir quels sont vos procédés, par exemple, pour qu'un boxeur qui soit très bon en anglais devienne bon aux échecs et vice versa.
Alors très simple, on a des coachs. Donc on a un coach qui est maître international, un coach d'échecs, Vincent Collin. D'ailleurs, je lui fais un petit salut.
On passe le bonsoir.
On passe le bonsoir, Vincent. Donc lui, il est venu, il est très très fort, évidemment, hein, c'est un maître international. Donc lui, il donne des outils, si tu veux, aux bons boxeurs qui sont pas très bons sur l'échiquier. Il leur donne des outils de se dire, ok, votre objectif, c'est pas de devenir un très bon joueur d'échecs, c'est de tenir sur la partie. Donc il va leur apprendre à jouer en partie rapide, en blitz. arbitre et il va leur apprendre par exemple à se positionner pour pouvoir gérer 4 rounds d'échecs, pour pouvoir avoir 4 rounds de boxe, tu vois, pour... et l'inverse pour les joueurs d'échecs. C'est-à-dire les joueurs d'échecs, eh ben, on les laisse être agressifs sur l'échiquier, mais par contre, on leur apprend à bien défendre, à bien se protéger, parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être se faire bouger. Et après, bien sûr, on essaye de les faire progresser, mais c'est ça le travail de la Fédé et des coachs.
Finalement, dans un combat, on arrive quand même à une parité entre les combattants, parce que ça s'équilibre dans un sens comme dans l'autre aussi.
Oui carrément, c'est ça. Alors il y en a qui prennent l'avantage sur l'échiquier, d'autres qui, enfin, ça amène des stratégies, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la combinaison de ces deux sports amène vraiment un sport à part entière, des stratégies qu'on ne ferait pas juste dans la boxe ou soit que dans les échecs. Je fais l'analogie souvent avec le biathlon. C'est un petit peu le sport.
Alors, on en a reçu des athlètes,
c'est-à-dire on fait un effort physique intense, alors bon, on se tape pas, c'est sûr, et on doit se poser pour voilà ce qu'on et pas bouger. Donc c'est un peu ça, c'est tout, c'est voilà, ça amène cette faculté de faire baisser son cardio, de se plus poser, enfin voilà, c'est plein de choses qui sont inhérentes à la boxe et aux échecs qui se mélangent ensemble font un vrai sport.
On termine avec Myriam cette interview, le chess boxing.
J'ai deux questions.
Alors,
quelles sont les relations que vous entretenez avec les fédérations de boxe anglaise et d'échecs? Et deuxième question, est-ce un sport mixte? Parce que pour le combat de ce samedi, il y a 4 matchs.
On terminera avec l'événement de samedi.
D'accord, c'est toi, il existait 4.
Oui, mais on a eu un blessé.
D'accord. Donc, sur ces 3 matchs, il y aura donc 6 participants et ce sont que des hommes. Donc, est-ce que les femmes peuvent y jouer ou
Alors, je réponds d'abord à celle-là. Ouais. Donc, évidemment, alors, nous, c'est notre objectif premier à la fédération. À partir du mois de janvier, on va vraiment se lancer là-dedans. C'est de développer le chess boxing féminin. Évidemment, on est un sport moderne. On veut vraiment que, bien sûr, les femmes puissent participer. En tout cas, pratiquer déjà, pas forcément dans la compétition, mais qu'elles viennent. Donc, ça, les clubs travaillent là-dessus et on voit qu'il y a beaucoup de filles qui viennent pratiquer et faire de la boxe, ça c'est très intéressant. Et au championnat du monde, on a une fille qui vient avec nous.
Ah,
donc on a Lara
ça, c'est
Armas,
super.
qui est une très bonne joueuse d'échecs, qui s'est mise à la boxe il y a 5 ans et qui m'a dit bon écoute, je veux venir, et donc elle est en moins de 60 kilos et puis elle va venir et puis je pense qu'elle va faire mal. Ah. Donc ça c'est notre première, mais si tu veux, comme on est vraiment au tout début, on a déjà du mal à trouver des garçons, alors déjà des filles. Non mais par contre c'est vraiment...
Ça se peut que les femmes vous ramenez des hommes.
Bien sûr. Mais c'est vraiment une de nos priorités, voilà. Et ta première question,
c'était vos relations avec les fédérations.
La fédération.
Alors,
WBC, WBA.
Avec la fédération d'échecs, ça c'est très intéressant. Avec la fédération d'échecs, elles sont excellentes parce que les échecs ont vraiment conscience que ça peut être bien pour eux. Et ils adorent l'idée, tout ça. Donc on travaille, voilà. Par exemple, il y a Laurent Fraissinet qui va venir commenter la partie d'échecs. C'est un des meilleurs joueurs français. Enfin voilà, c'est un génie, quoi. Donc voilà. On a ces gens-là. Par contre, à la boxe, alors on a des timides tentatives. Donc il y a Lyon Boxe, Sadi, je lui fais un big up aussi, qui va venir et qui nous aide.
On va vous en trouver là. Voilà, on en a reçu des champions en plus dans cette émission. Mais il faut.
Voilà, on a plein de gens de la boxe alors on a un arbitre international de boxe qui est là. Enfin, il y a plein de gens qui sont intéressés. Mais par contre, c'est un peu moins encore.
Nos prémices aussi quand même.
Voilà, parce que ils comprennent pas encore trop. Ils se disent quoi, on joue aux échecs. Non, pour eux, la boxe, tu vois. Alors nous, on y va petit à petit. Et on espère se faire bientôt intégrer, voir une place, et puis leur montrer qu'on est, très respectueux en tout cas de ce sport.
On termine justement avec cette discipline qui est le chess boxing ce samedi soir, le cabaret sauvage. Pour les auditrices, les auditeurs, on pourra trouver quoi justement, il faut le rappeler, où on pourra se procurer des billets pour assister à cet événement.
Les billets, vous pouvez les prendre sur internet, donc sur tous les
points de vente habituels.
Et puis après sur place, l'ouverture des portes est à 19h, le début des combats à 20h. Venez tôt parce qu'il va y avoir du monde, et surtout venez tôt pour assister au spectacle, parce que en plus de ces 3 combats qui vont être d'un très bon niveau, il y aura tout un petit show, un petit spectacle qu'on prépare aux gens. Donc venez vous amuser en venant voir du sport, des échecs, venez boire un verre en réfléchissant et en voyant un spectacle intéressant
fait par
des super athlètes.
On vous le conseille par de super gars qui est autre que Guillaume Salançon, on le rappelle, président de la fédération de chez Boxing France, et aussi Alexandre Borel, cofondateur de l'agence Saya Communication. Une courte pause avant de revenir avec le football, Ligue des Champions. On va rester. Okay. On donnera toutes les infos sur les réseaux sociaux. On va parler du retour de N'Golo Kanté face à l'Ajax, sans oublier aussi les autres matchs et le tant attendu Lyon-Benfica du côté du Groupama Stadium. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 19h-20h. Time Sport. avec Bilal Nenman.
Eh oui, justement, c'est la fameuse victoire. En tout cas, on l'espère pour lui. N'Golo Kanté, le retour du Blues, espéré contre l'Ajax. Absent lors des 11 des 14 derniers matchs de Chelsea en raison d'une blessure à la cheville. N'Golo Kanté, le Frenchie, a repris l'entraînement collectif hier soir. Le milieu français pourrait donc effectuer son fameux retour lors de ce match de ce soir 21h en Ligue des Champions. Leader du groupe H, faut le rappeler, avant la réception de l'Ajax Amsterdam, Chelsea partira-t-il favori de ce duel contre le club néerlandais. Hervé, on t'écoute.
Je pense que ça va être un match serré, ouais. En fait. Je pense que ça va jouer, ça va se jouer sur des détails.
De belles formations, en tout cas.
Voilà, de belles formations. Je trouve qu'on salue pas assez le travail de Frank Lampard.
Ouais.
Dans le sens où il hérite quand même d'une équipe assez jeune.
Pas faux.
Voilà, il a installé.
On n'en parle pas beaucoup.
Voilà, des Baby Blues en la personne de Mason Mount. Voilà, qui fait preuve vraiment d'un super niveau en ce début de saison. Tammy Abrams, qui fait partie des meilleurs buteurs de Premier League cette saison. Même des joueurs comme Hudson Odoi, comme Kovacic, qui a très bien remplacé N'Golo Kanté. Donc je pense qu'on salue pas assez le travail de Frank Lampard. Après, de l'autre côté, on a une équipe de l'Ajax, toujours aussi séduisante, toujours aussi entreprenante. Maintenant, attention à ne pas manger la feuille de match. On a vu contre Lille et aussi contre Chelsea qu'ils ont parfois tendance à galvauder leur occasion, et en Ligue des Champions, ça peut se payer très, très cher.
Alisson,
ça va être une rencontre assez serrée, ouais, et équilibrée. Tu l'as très bien souligné, Frank Lampard fait quelque chose de beau cette saison avec son équipe des Blues de Chelsea. Et ce soir, notamment, on a le fameux retour tant attendu de N'Golo Kanté après sa blessure après le rassemblement des Bleus, c'est ça, contre l'Islande. Kanté qui revient, on l'attend, c'est un joueur clé, hein. Frank Lampard l'a dit, ça reste un joueur très important, c'est un joueur qui a démontré ces dernières années que c'était un très grand joueur, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu en ce moment à son poste. Malgré son pour pallier son absence, on avait un petit duo Kovacic et Jorginho qui ont su donner satisfaction, mais on peut dire que le grand retour de Kanté fera du bien à cette équipe, ouais, de Chelsea.
Peut-être un mot avec Guillaume concernant N'Golo Kanté, l'international français.
Ah, moi, c'est un joueur que j'adore, ouais, extraordinaire. Après, j'ai pas trop vu jouer Chelsea cette année, mais j'ai adoré l'Ajax de l'année dernière. Moi, personnellement, enfin, alors bon, c'est pas la même équipe, je sais, ils ont perdu, ouais, des joueurs, mais c'était pour moi le plus beau football. Enfin, je veux dire, c'était incroyable à voir jouer. C'était des émotions vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas, ouais, ressenti ça. Et voilà, alors après je peux pas rien dire pour ce soir, mais en tout cas moi je suis content que Kanté revienne, parce que pour moi c'est clairement c'est mon idole, quoi.
Rapide, Hervé, on terminera avec Myriam.
Bah, juste un titre d'information, c'est, ouais, un joueur qui se blesse pas souvent. Je me suis amusé à regarder
ouais, c'est pas Neymar.
Quelques stats. Et voilà, sur les trois dernières saisons, c'est quand même 105 matchs disputés pour 9 matchs manqués. Donc c'est pour dire, voilà, le niveau de régularité du garçon. On espère vraiment que les blessures vont le laisser tranquille et qu'il va retrouver toutes ses sensations.
Ouais, en tout cas, Neymar, il ne le voyait pas dans son rétro, hein. Ah, Neymar, il va trop trop vite pour N'Golo Kanté.
Cristiano Ronaldo qui a taclé Neymar, hein, d'ailleurs.
Aïe, 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 c'est pas bon.
Sur son hygiène de vie.
Hein. Ouais. On va revenir sur le Paris Saint-Germain avec Icardi et Cavani rapidement avec toi, coach Tollet.
C'est un des meilleurs joueurs à son poste, ouais, au monde, et puis il va clairement apporter de la stabilité. Espérons que, c'est vrai, comme tu l'as dit, il a été, on avait l'habitude de le voir jouer régulièrement, et c'est vrai que là il a enchaîné un peu les blessures. J'espère que ça va le laisser un peu tranquille. Parce que je pense qu'il a encore une marge de progression, et ça passera, je pense, par un club encore plus important.
Ouais, Myriam.
Le plus important, c'est,
alors, pour toi,
qu'il se rétablisse bien.
C'est sûr.
Et qu'il fasse une belle saison pour être au top pour l'Euro 2020. Parce que c'est dans quelques mois, quand même.
On l'espère.
Ça approche vite. Et puis, pour ce soir, le gagnant de la rencontre sera en bonne posture pour rester en tête du groupe H. Et ça, c'est important pour la suite de la compétition. Mmh. Parce qu'ils sont tous les deux à 6 points. Donc, que le meilleur gagne, du coup.
Allez, un gros match en région rhodanienne ce soir aussi.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, c'est pas les crocos de Nîmes ou encore les fossés, hein, du côté de la Canebière, mais c'est bien l'Olympique Lyonnais qui accueille les Benfiquistes. hein, je sais pas comment le dire, on verra avec Simon, il me corrigera là aussi, et qui rencontre justement ce Benfica de Lisbonne pour une rencontre décisive déjà dans le groupe G, il faut le rappeler, où Leipzig règne en maître. Pour ce match crucial de la course à la qualification pour les huitièmes de finale de cette édition de la Ligue des Champions 2019-2020, Memphis Depay, présent en conférence de presse, assure qu'il se sent bien dans ce groupe et espère montrer la voie aux Lyonnais et justement à tous les supporters. A-t-il l'étoffe d'un leader, celui que l'on suit les yeux fermés et pour relever les gros défis?
Pour être un leader, il faut être régulier. Et je pense que c'est un joueur extraordinaire lorsqu'il est bien.
Depay.
À Lyon. Ouais, à Lyon en tout cas. C'est vrai qu'il est, il a des stats intéressantes, mais il a des absences par moment. Et un leader doit être.
C'est là où on comprend pas, ouais.
Un leader doit être là constamment, même quand ça va pas, même quand c'est compliqué. Et moi, j'ai eu des périodes de Memphis où malheureusement il a totalement disparu. Maintenant là, il est bien. Ça fait depuis 2-3 matchs qu'il tire vraiment le groupe vers le haut. Est-ce que ça va tenir?
Ça pourrait être assez sympa pour Garcia et ses hommes.
À lui de le démontrer ce soir, Ligue des Champions, face au Benfica.
Guillaume, le président.
Alors, il est bien parce que Garcia l'a replacé. L'a replacé. Et Garcia en a fait sa star, ce qu'avait pas fait Genesio. Bon, il avait fait Kier aussi. Mais moi, par contre, c'est un très bon joueur, évidemment. Mais voilà, je trouve que Lyon, c'est pas une équipe, moi, qui me plaît ces deux dernières années. Et je trouve qu'en fait, on a l'impression que Lyon, c'est une succursale pour les autres clubs. Tu vois? Non, mais vraiment, j'ai l'impression que même les Lyonnais, je vais aller à Ouar ou quoi, j'ai vu des matchs où ils courent pas. Et ça, moi, pour
c'est bien dommage, ça.
Non, mais alors après, j'espère que ce soir, ils vont gagner. Moi, je suis pour Lyon, évidemment. Mais je veux dire, ils peuvent. Alors, c'est sûr, Depay sauve le Toulouse. Enfin, il les sauve de, tu vois, le dernier but. Bon. Mais quand même, ils prennent 2-0 contre Toulouse. Enfin, je veux dire, ils se font bouger depuis le début de saison. Moi, je dis Benfica, ça joue à Lyon ou à Benfica?
À Lyon. Là, c'est le retour, à Lyon.
Lopez qui est pas sûr, franchement moi Lyon je les sens pas et je sens qu'ils sont à rien, mais comme l'année dernière où enfin ils réussissent mais ils sont à rien tu vois de rater. Moi j'ai voilà,
c'est compris, ce que je me dis. Hervé, peut-être avec Guillaume. Alors Lyon.
Je suis totalement d'accord avec ce que disait Guillaume et pour renforcer également ce que disait le coach Tollet. Voilà, pour être un leader, tu dois être également un exemple et moi je vois pas en Memphis ce mec capable de voilà de montrer l'exemple. Je pense que Memphis, il s'est fixé un objectif, il s'est dit à l'été prochain, je pars de Lyon.
Mais à chaque fois, c'est toujours comme ça.
Il me reste 6-7 mois avant la fin de la saison. Je vais donner mon meilleur en espérant pouvoir attirer les sirènes des clubs anglais. Et l'été prochain, je négocie un contrat et je pars outre-Manche.
Mariam,
Je pense qu'il faut soutenir nos clubs français, surtout pour l'indice UEFA. Je sais, je me répète, mais c'est important.
Mariam, elle soutient toujours. Vrai fanatique, elle a raison.
Elle a raison.
Et bien sûr, on est champion du monde. Et peut-être champion d'Europe à venir.
Oui, vous avez raison. Non,
déconne pas quand même.
Oui, moi j'y crois.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il attend d'aller dans un grand club comme Fekir attendait. Et Fekir, il se retrouve à Séville. Alors bon, moi, je trouve que il devrait avoir envie de faire que Lyon devienne un vrai grand club. Ils en ont le potentiel, ils ont les moyens, ils ont ce qu'il faut, et il devrait s'intégrer au projet du club et se dire ok, on est un peu comme voilà les Gérard, tu vois, Liverpool, enfin, ce qui se passait, et en fait non, ils veulent se barrer. Et on se comprend pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y a pas d'âme ou je sais pas. Alors, mais on comprend pas pourquoi ils veulent
on laisse terminer Myriam. Non mais ça fait rien. Belle réaction de Guillaume, notre invité ce soir. Myriam, on termine avec toi et aussi Alison sur Lyon.
On va dire un mot aussi sur Lille. Des belles performances contre des grosses équipes. Hein. Ils sont capables de créer cet espoir.
Pas cette saison.
La Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, c'est propice pour les exploits. Et puis, l'air de rien, et malgré tout, Benfica n'est plus l'équipe qu'on a connue jadis. Hein. C'est pas l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions en 61 et en 62. Donc il y a de l'espoir pour Lyon.
Bien sûr. Pourquoi pas? On y croit, Myriam, vraiment. Et comme les Lillois aussi. Avant de parler de Lille, rapidement, Alison.
Ça va être très difficile pour Lyon, même si le jour leur va tout, ils peuvent quand même faire quelque chose, parce que pour la deuxième place, ça reste encore très serré. Hein. Et pour revenir sur Memphis Depay, on l'attend. On attendait qu'il soit ce leader-là, mais malheureusement, il reste encore inconstant. Même si ces deux, trois derniers matchs, il semble porter Lyon. Il marque un peu des buts. Et il se dit, en tout cas, qu'il est bien et qu'il veut porter cette équipe de Lyon. Mais on l'attend. La saison n'est pas terminée. On va voir ce que ça va donner. Mais ça va être compliqué quand même pour Lyon.
Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, Memphis, c'est un peu un feu de paille.
Moi, je pense que ça va être un match charnière, un match clé pour Lyon. Je pense que s'ils perdent, je pense que ça va aller très, très mal pour eux. Et s'ils gagnent, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se déclencher.
Semaine clé.
Tu es d'accord avec lui,
toi. Oui, semaine clé.
Hein. Marseille aussi.
Bien sûr.
En ligne de mire pour bien les sûr. Lyonnais, c'est ça.
Ah oui, dimanche soir. Ouais.
Ça promet.
Avant Marseille, justement, on va s'attarder sur un autre club français en Ligue des Champions, Lille, et qui va tenter d'accrocher le train de la fameuse Ligue Europa en gagnant contre Valence ce soir. Mathieu, c'est chaud ici, là, le coach Tollet.
Assez chaud, mais incertitude du côté de Lille. C'est vrai qu'il y avait. On a eu des certitudes, notamment au niveau du jeu la saison dernière. On parle de Pépé, mais tu avais aussi Ikoné, Bamba qui n'ont pas le même rayonnement qu'ils ont eu la saison dernière. Et là, on sent que ça se cherche un petit peu. Moi, je les ai vus samedi dernier au Vélodrome. Même si l'OM a mérité cette victoire, c'est vrai que tu as vu une équipe encore de Lille. Il y a plusieurs visages, donc c'est difficile à savoir quelle équipe de Lille on va avoir à Mestalla, où c'est jamais facile de s'imposer, même si les exploits sont possibles.
Bien sûr, on y
mais,
croit.
Mais ce Lille-là, on ne sait pas trop, en fait.
Reste utopiste, peut-être.
On reconnaît le coach. Le coach qui soutient ses hommes. Ça, c'est beau. C'est un beau message.
Cette saison est une équipe inconstante. Après, s'il gagne ce soir, il pourrait accrocher la troisième place, qui est la place de l'Europa League. Et pour des joueurs dont la jeunesse se fait ressentir sur le terrain et en dehors même pour les Lillois, ça serait pas mal pour cette équipe de Lille et pour les clubs français et l'indice UEFA Myriam.
Hervé,
ça va être un match très ouvert dans le sens où du côté valencien, ça dégage pas non plus la sérénité. C'est une équipe qui est gangrénée par des crises internes avec le propriétaire Peter Lim. Il y a eu le départ du directeur sportif Matteo Lamini.
Peter Lim.
Oui, il est très
carrément. Voilà. Des posters.
Exactement.
Où on barre carrément le visage. Non,
exactement. C'est
de fou, quoi.
Exactement. Il y a également l'ancien entraîneur Marcelino qui est parti, qui a été remplacé par Albert Salades, l'ancien bordelais. Voilà. Et puis au niveau de l'équipe, quand on regarde les matchs de Valence, il y a plus cette force collective de la saison dernière. Les individualités qui avaient l'habitude de sortir l'équipe du cambouis, lorsque c'était nécessaire, elles sont pas au niveau. Je pense à la charnière centrale, juste pour terminer, Paulista Garay, je pense à Dani Parejo, je pense à Kondogbia, même Guedes, on n'entend plus parler de lui.
Ça reste comme des gros joueurs. Voilà.
Oui, je suis pas en train de te dire qu'ils sont mauvais. Je suis en train de te dire que cette année, ils sont pas les leaders, les cadres de la saison.
Rapidement, okay. On n'a pas eu Myriam concernant les Lillois.
Oui, non, mais c'est juste que Lille s'est plus imposé extérieur depuis le mois de mars. C'est un peu compliqué. Et puis à Mestalla, ça reste toujours quand même délicat.
Il reste assez bouillant quand même le stade là-bas. Myriam.
Pour moi, c'est le match de la dernière chance.
Oui, ça c'est sûr.
Oui, mais parce que si on ne gagne pas maintenant, on ne gagnera pas. Sur les deux prochains matchs qui vont rester, c'est peu pour passer en C3. Donc là, il faut vraiment qu'ils gagnent ce soir ou qu'ils fassent un bon résultat pour espérer gagner leur ticket pour la C3. Parce que sinon, la saison européenne sera terminée.
Se termine ce soir.
Aïe, le Paris Saint-Germain, non, tout va pour le mieux en Ligue des Champions. C'est dernière rubrique, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Je sais pas si ça fait plaisir à des supporters crocos ou même fausséens ou même les Aiglons de Nice. Ça va savoir si le Paris Saint-Germain, quand il gagne en championnat de la Ligue 1 Conforama,
c'est vrai que le Sud cette année, regarde avec des champions à la télé, hein, que ce soit Marseille,
à la télé.
Monaco,
Nice,
ça fait malheureusement un petit peu trop longtemps.
Icardi,
club historique,
pourquoi pas. Icardi et Cavani, rivaux mais complémentaires, Guillaume, entrevue à Dijon, faut le rappeler, l'association entre Icardi et aussi le Cavani est prometteuse mais peu probable. Faut le rappeler là aussi, les deux avant-centres ont été associés 20 minutes, vraiment. Du côté de Dijon, bien que cette expérience parue intéressante, mais hors blessure, est-elle probable lors des grands matchs? C'était pas mal quand même. Ouais, mais ils ont perdu, mais quand même.
Tout dépend après de l'animation.
Ouais.
Tu as Mbappé et Neymar qui joueront quoi qu'il arrive.
Grave.
Déjà, pour commencer. Donc, il reste
tout
le monde. Si tu joues dans une animation, avec
Draxler, Di Maria,
sur les côtés, t'en auras forcément deux sur le banc. Si tu joues en 4-4-2, tout dépend. Et puis t'as une situation aussi sportive qui fait que et politique à mon avis dont on ne parle pas assez, mais comment il s'appelle Cavani, bien sûr, ouais. Cavani, wow. Tranquillement ils sont en train de ouais. Le mettre de côté.
Le meilleur buteur du club.
Qu'est-ce qu'ils en ont à faire du meilleur buteur du club?
Ah ben on respecte plus rien là.
Franchement, bah oui. C'est ça l'image du foot d'aujourd'hui. On respecte plus rien. Tranquillement, il partira en fin de saison.
C'est grave.
Bien sûr, c'est grave.
Respecter le propre joueur et après tu demandes que les supporters.
Et Cavani n'a jamais été respecté au Paris Saint-Germain. De toute façon, il a toujours été mis en concurrence avec un autre attaquant. Autant d'Ibrahimovic, c'était pareil. Pourtant. Il a toujours été mis de côté. Edinson Cavani, c'est quand même l'un des seuls joueurs qui a toujours fait des bonnes saisons.
C'est un joueur d'avant, quasiment. Un peu Cavani.
Guillaume, on écoute On écoute Guillaume, notre invité. Messieurs, dames. Guillaume, notre invité, on l'écoute concernant Cavani, le joueur.
On peut pas me taxer de pro-parisien parce que je peux un peu plus.
Alors, ça te fait rien.
Non, mais Cavani est un joueur que moi j'adore aussi, que je trouve extraordinaire. Et je trouve, c'est vrai, effectivement, que Paris est pas super classe avec lui. Par contre, à la des charges de Paris, j'ai vu le match contre Marseille et la première mi-temps qu'ils font avec Icardi, Di Maria, Mbappé est extraordinaire. Donc après aussi je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir Icardi plus que Cavani. Par contre c'est vrai, c'est moche, c'est pas classe, mais si le foot était classe, ça se saurait. Pour moi, si j'étais Cavani, je partirais dans un
souvenir. Guillaume partirait.
Mais tout de suite, il faut partir.
Directement.
C'est un joueur d'avance.
En Espagne, peut-être.
Tu le vois dans sa mentalité. C'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est un gagneur. Il fera pas des déclarations fracassantes. Il donne toujours le maximum, que ça soit.
Hervé.
L'OM ou Dijon, il sera toujours à 200%.
Il est toujours là. Alors, Hervé Dubé.
Non, je pense qu'on a tout dit.
Il doit partir.
Pour moi, je pense que oui, à la fin de la saison, moi je verrais bien aller du côté de l'Atlético Madrid.
Même tu peux partir cet hiver.
Exactement, on a souvent lu et entendu que le club Colchonero était intéressé par le profil, donc je sais pas pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas. Après, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Alisson, c'est vrai qu'Avani il a jamais été respecté. Autant Laurent Blanc, on le faisait jouer ailier gauche.
Quand même.
Voilà, on le faisait jouer on le faisait jouer ailier gauche. Là,
contre à droite.
Non, c'est fou, j'ai dit. J'ai dit, c'est fou. C'est pas faux. J'ai dit, c'est fou. C'est incroyable.
Ah oui, d'accord.
Vraiment.
C'est toujours sur la défensive, lui.
Il est toujours comme ça, lui. Surtout face à des fusils, c'est ça, quoi, tu connais. C'est la prochaine match, il est du côté de l'Orange Vélodrome.
Mais en fait, le problème, secrètement, il veut pas l'avouer.
Derrière, allez, assez de blagues. Allez.
Pour moi, le problème de Paris Saint-Germain est plus important que ça. C'est surtout un problème de mentalité et de motivation. Pourquoi on bat l'OM et pourquoi contre Dijon, ils perdent? C'est pas normal, c'est pas logique.
Je comprends pas,
mais. Regardez le Bayern de Munich. A perdu ce week-end 5-1 à Francfort, a limogé son entraîneur parce que en 10 ans en Bundesliga, ça n'est pas arrivé d'une telle défaite. Et Uli Hoeneß a agi de suite.
Romenegue aussi.
Et même les déclarations de gros joueurs comme.
Romenegue,
il doit partir, je dis qu'ils doivent agir et que la mentalité doit changer.
Et même les déclarations, par exemple, un Neuer en conférence de presse, il était fou.
C'est juste que dans la mentalité du Bayern, ce sont des tueurs sur le terrain.
Justement. Face à ces mentalités, Guillaume, face à ces mentalités, comment expliquer cela au Paris Saint-Germain?
Écoute, c'est compliqué. Mais je pense que Paris, il y a un vrai problème de. Je peux pas dire ça. Il y a un vrai problème sur l'institution. Sur l'institution, et je pense que Leonardo est une très bonne chose. Et je pense que cette année, ça va bien se passer. Et je pense qu'ils vont jouer le feu et qu'ils vont aller loin. Par contre, moi, la vraie erreur qu'ils font l'année dernière, c'est quand ils perdent contre Rennes, la finale. Moi, pour moi, ça, c'est un match à pas perdre. Après, qu'ils perdent contre Dijon,
parce qu'ils ont
tout donné sur Marseille. Je comprends, ça, c'est la motivation. Mbappé l'a dit. Mais moi, c'est des matchs comme ça. On peut pas perdre une finale contre Rennes. Quand t'es le Paris Saint-Germain, parce que alors là tout s'effondre, ça veut dire que l'argent n'est plus roi, et qu'une équipe peut, avec des individualités un peu moindres, peut gagner. Et ça, moi, c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Et c'est aussi pour ça que je suis pour Dijon.
Justement, il est pour Dijon. Et où on le rappelle, le président de la Fédération de Chess Boxing France, Guillaume Salençon, d'avoir été là avec nous, avec Alexandre Bourail. Et l'événement de ce samedi, où on pourra vous retrouver.
Samedi 9 novembre au Cabaret Sauvage à partir de 19h. Trois combats, les meilleurs combattants français et internationaux du chess boxing, des échecs, de la boxe. Un engagement total. Ouais. Ça va être génial, venez à un spectacle.
On l'espère.
On vous attend nombreux.
On l'espère.
On peut rentrer seul ou faut être accompagné?
Tu peux rentrer seul. Tu peux rentrer seul. Et merci pour l'invitation. C'était
très agréable. Merci à vous, Guillaume. Merci, Alexandre. Merci, Alison, à Myriam. Et aussi à Hervé, sans oublier le coach Tolé, Yanis, à la rédaction, sans oublier à la réalisation, sans oublier le rédacteur en chef, Mamadou Lamine Mané. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.